Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Merci d'être toujours fidèle à Métropole et vous. Bienvenue à ceux qui découvrent cette émission. C'est une question qui revient souvent dans les discussions de tous ceux, artistes, créateurs ou simples spectateurs, qui s'intéressent à la culture ou qui œuvrent dans ce domaine sur le territoire métropolitain. Quelle est la vision de nos élus en termes de politique culturelle? Une attente qui a donné lieu à un long travail de réflexion mené par les services culturels de la mairie de Toulouse et de la métropole, en concertation avec les élus et les acteurs du secteur. De ce travail et de ces échanges est né un projet culturel commun, rendu public récemment et dont on peut prendre connaissance sur le site web de Toulouse Métropole. Il y a donc désormais un document de référence en la matière. Reste à voir ce qu'il y a dedans, quels en sont les grands axes et les lignes de force. C'est ce que nous allons essayer de vous faire partager au cours de ce numéro entièrement dédié à la découverte du projet culturel de Toulouse Métropole. Il a bien sûr suivi tous les travaux qui ont amené à la rédaction de ce projet en tant qu'adjoint à la culture du maire de Toulouse et président de la commission culture de Toulouse Métropole. Francis Grasse est l'invité de cette émission et je le remercie chaleureusement d'avoir accepté mon invitation à venir s'exprimer au micro de Radio Présence. Pour que nos auditeurs comprennent bien, j'ai dit que ce document était commun à la mairie de Toulouse et à Toulouse Métropole. Je pense qu'il faudrait, pour commencer, que nous expliquions pourquoi il en est ainsi et ce que ça implique pour les deux collectivités et leurs services.
Créer ce document, c'est en fait un long travail, parce qu'on ne l'avait jamais fait, d'ailleurs ni à la ville ni à la métropole, et ça s'est déclenché comment? À début 2016, la métropole, qui n'a pas de compétences culturelles par ailleurs, la culture est souvent dans les communes, donc à la ville de Toulouse et dans les 36 autres communes de la métropole, nous avons transféré, de par la loi, les grands équipements culturels. Le théâtre du Capitole et l'orchestre du Capitole, le muséum, la cité de l'espace, le Zénith.
Le TNT.
Le TNT, bien sûr, je l'ai oublié. Mais nous nous sommes dit, avec les collègues élus à la culture, que transférer des équipements, ce n'est pas ça qui fait une politique culturelle. Que nous devions nous poser les questions de est-ce qu'il y a des axes à avoir entre nous sur la culture. Alors nous avons commencé à le faire sur la lecture publique et nous avons édité un document charte de lecture publique qui, pour la première fois, a été un document élaboré en commun par les élus culture. Il a été ensuite voté par Toulouse Métropole à l'unanimité et il a été signé par les 37 maires de la métropole. Donc, on a considéré que c'était un exemple et on s'est dit, ce travail qu'on a fait, qui a pris un an, et pourquoi on ne le poursuivrait pas de la même manière, avec la même méthode, sur l'ensemble de la culture. Et c'est ce que nous avons initié il y a maintenant un an.
D'où ce projet commun, mérite
Toulouse. D'où ce projet commun.
Toulouse Métropole. On va faire un peu d'histoire. Est-ce que c'est la première fois qu'un tel document est produit?
Oui, parce qu'au fond, l'histoire du territoire toulousain, si on remonte au 19e siècle, avant la guerre de 14, on va dire plutôt au début du 20e siècle, finalement Toulouse était la capitale d'une région agricole. Et puis, il n'y avait pas d'industrie. L'industrie, elle est née à partir de 1917. Il ne faut pas l'oublier. On était une région pas du tout industrielle. Et je ne vais pas refaire toute l'histoire depuis 1917, de l'aéronautique civile et ensuite de la création, la construction d'avions notamment, mais pas seulement. Eh bien, petit à petit, ça a généré un développement urbain considérable, avec un étalement urbain très important. Mais il se trouve que la culture, elle est restée à Toulouse. Elle est restée à Toulouse, fortement. Et c'est l'apparition de manière nette de la culture dans des communes autour de Toulouse, ça date d'il y a 30 ans tout juste, avec Audi-Sud et puis ensuite Tournefeuille, avec l'Escale ou le Phare, tout récemment Corne-Barieux qui est une nouvelle salle, et je ne vais pas les citer tous, mais petit à petit, la culture s'est aussi installée dans les communes. Mais aujourd'hui, on a besoin à la fois de se coordonner, de parler ensemble et d'être cohérent dans nos axes de travail. Et voilà, c'est ce qu'on a commencé à faire.
Merci pour ce petit cours d'histoire et ces premières explications, Francis Grasse. Nous allons entrer dans le détail de ce projet culturel métropolitain un peu plus tard dans cette émission. Pour l'instant, nous allons retrouver Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Quoi de neuf dans la métropole cette semaine? Métropole et vous, l'actu. La collecte des déchets pour commencer ce flash, piqûre de rappel pour mieux trier les emballages en plastique et métal sur le territoire de Toulouse Métropole.
Oui, une campagne pour les oubliés du tri, les canettes et les emballages de la salle de bain. Déjà en 2016, Toulouse Métropole a mené un plan de relance de la collecte du verre. Elle a d'ailleurs implanté plus de 400 nouveaux récup' verts sur son territoire. Si les gestes de tri sont devenus habituels, les emballages en plastique et en métal sont encore trop peu collectés. Bombes à raser, les déodorants, les lacs, sacs, les flacons de shampoing, de gel douche et de lessive sont les oubliés du bac de tri. Une série de 4 vidéos est disponible pour mobiliser les habitants de Toulouse Métropole sur la question de ces emballages cosmétiques et métalliques.
Mais dites-moi Corinne, quels sont les chiffres concernant le recyclage dans la métropole toulousaine ?
Alors, 24 439 tonnes d'emballages ont été recyclées en 2016, que ce soit du papier, du carton, du métal et du plastique, dont 1288 tonnes d'emballages en métal, soit 5,2% du total des emballages recyclés, et 1865 tonnes d'emballages plastiques recyclés, soit 7,6% du total des emballages recyclés.
C'est le thème de cette émission. La métropole toulousaine a réaffirmé sa volonté de valoriser la culture sur son territoire.
Une spécificité qui s'appuie sur 5 piliers, la culture scientifique sur la métropole, à travers le Muséum d'Histoire Naturelle, la Cité de l'Espace, Aéroscopia, le Quai des Savoirs ou encore l'Observatoire de Jolimont. Les musiques, son héritage est riche depuis plusieurs siècles maintenant, ce domaine est soutenu par une formation professionnelle et un enseignement artistique diversifié. Troisième point, la création et les cultures émergentes, en favorisant l'émergence d'artistes, de compagnies et de disciplines innovantes. Quatrième point, l'image, Toulouse et sa métropole sont classées parmi les premières métropoles françaises pour la fréquentation de leur cinéma et en tête pour la fréquentation du secteur art et essai. À cela s'ajoute une production audiovisuelle et cinématographique importante, en particulier au niveau du cinéma d'animation. Dernier point, bien sûr, son patrimoine. D'une surface de 230 hectares, le site patrimonial de Toulouse, qui couvre la majeure partie de la ville historique, est l'un des plus grands de France. Le projet de candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO, précédé par la candidature au label Ville et Pays d'Art et d'Histoire, constitue la base de cette dynamique, autour de laquelle pourront se déployer bien sûr plusieurs actions.
On laisse la culture pour la propreté. Vous le savez maintenant, depuis le 1er janvier 2017, les désherbants chimiques sont interdits dans les espaces publics.
Oui, depuis cette date, Toulouse Métropole procède à un désherbage en utilisant des techniques alternatives, balayeuses avec des brosses plus dures, outils de coupe binette. Le choix d'espèces végétales demandant peu de traitement est aussi privilégié. C'est une nouvelle façon de penser les espaces avec une nature mieux maîtrisée et un plus grand respect de cette biodiversité. Après le zéro phyto dans les rues, le zéro phyto dans les cimetières, c'est pour bientôt. Les produits chimiques seront interdits dans les cimetières au 1er janvier 2019. Il faudra donc s'habituer à la métamorphose de nos cimetières et au retour de la verdure pour en faire des espaces de nature.
Alors Francis Grasse, nous allons revenir dans quelques instants sur les 5 piliers qui font la spécificité culturelle de notre territoire. Mais je voulais profiter de votre présence pour parler d'un sujet qui a été évoqué au cours de ce flash d'information, le dossier de candidature du Centre historique de Toulouse au patrimoine mondial de l'UNESCO. Où en est-on à ce jour ?
Alors où en est-on ? Nous travaillons toujours activement sur le sujet, qui est un sujet passionnant, mais aussi complexe. Complexe parce que pour être candidat à l'UNESCO, il faut avoir aussi des chances d'obtenir ce label, qui est très envié. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ce label a été attribué beaucoup à l'Europe, et essentiellement France-Italie. Et en France, il a été beaucoup attribué à une partie très importante qui s'appelle la région Occitanie. Nous avons un peu le record des labels UNESCO, y compris, vous savez, à Toulouse, puisque nous avons le canal du Midi qui traverse Toulouse, et les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, avec notamment Saint-Cernin et l'Hôtel-Dieu. Donc, il s'agit d'avoir un dossier qui soit pertinent par rapport aux critères de valeur universelle. Et donc, c'est quelque chose de difficile. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec des cabinets spécialisés et qui ont aussi un regard international, puisqu'il s'agit de se comparer à des projets qui peuvent exister dans le monde entier. Et l'UNESCO peut avoir tendance à rééquilibrer sur le monde. Donc voilà, il faut qu'on soit très pointu, très exemplaire. Et nous n'avons pas encore totalement bien
l'axe, trouver l'axe qui sera le
bon axe. On a énormément d'éléments, bien entendu, mais il faut trouver le bon axe.
Et donc, on peut penser que ce dossier serait déposé quand ? On a une échéance pour l'instant ?
On ne
sait pas trop encore.
On ne s'est pas mis justement de pression de date, parce que ça ne sert à rien. Ce n'est pas une course de vitesse. Un dossier UNESCO, c'est une dizaine d'années. Voilà. Alors, on a des jalons pour ça. On a repris en main notre patrimoine. D'ailleurs, on en fait un axe de notre politique culturelle. C'est une chose. Deuxièmement, nous allons candidater, c'est un jalon au label français de ville d'art et d'histoire. Alors, nous avons évidemment tous les ingrédients de ville d'art et d'histoire. Mais on n'avait jamais postulé à ce label. Voilà, donc c'est aussi en cours. Ça, c'est pour l'année prochaine.
Merci d'avoir précisé ce point. Nous allons maintenant prolonger notre échange autour du thème de cette émission consacrée, je le rappelle, au projet culturel de Toulouse Métropole.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, la suite avec notre invité Francis Grasse, adjoint à la culture au maire de Toulouse, président de la commission culture de Toulouse Métropole. Ce projet culturel, désormais dévoilé, par qui a-t-il été élaboré et sur quelle base de travail? Je suppose qu'il y a eu beaucoup de réunions, de discussions, des groupes de travail. Quels sont les services, les acteurs, les professionnels qui ont été consultés et impliqués dans cette réflexion?
Alors, je dirais trois groupes d'acteurs. Le premier, c'est les élus culture, puisque c'est nous qui avons initié, et j'ai eu le plaisir d'animer ce travail avec des collègues, y compris avec ma collègue Dani Buisse, qui est vice-présidente de la commission et bien connue dans le monde de la culture. Donc c'est nous, en tant qu'élus culture, qui nous sommes emparés du sujet. Deuxième élément très important, c'est que nous avons souhaité échanger avec les acteurs culturels. Et nous avons réuni au travers d'une vingtaine de réunions les acteurs culturels par petits groupes pour qu'il y ait un meilleur échange. Et on l'a fait par domaine culturel pour simplifier. Discussion extrêmement riche et intéressante. Et puis, troisièmement, nos services, nos propres services qui nous apportent leurs compétences et qui nous ont servi à structurer ce travail, à l'animer. Et donc voilà, les élus, les acteurs culturels et nos services internes à ville et métropole.
Alors derrière un projet culturel, derrière tout projet d'ailleurs, il y a toujours une ambition générale. Laquelle vous êtes-vous fixé pour construire ce projet et quels axes avez-vous déterminés pour la soutenir?
Alors d'abord, il y a un point majeur, c'est que nous considérons tous, et Jean-Luc Moudin, que président de Toulouse Métropole, l'a exprimé devant les acteurs culturels, c'est que la culture a un double aspect. C'est premièrement, c'est quelque chose de très important pour les habitants, pour les citoyens, on le voit de diverses manières. Et deuxièmement, c'est un facteur de rayonnement. On ne rayonne pas que par son industrie, que par l'économie, on rayonne. Une grande ville, c'est une ville qui rayonne culturellement. Et ça, c'est l'ambition de Toulouse.
Alors, les axes que vous avez fixés, déterminés, ils ont été un peu évoqués là pendant le flash d'information. On peut peut-être les reprendre, mais de manière générale, qu'est-ce que vous avez mis derrière?
Alors, ce qu'on a mis derrière, c'est d'abord de bien caractériser la culture. C'est pas que l'art, la culture, c'est l'art et les savoirs. C'est le deuxième sens du mot culture. On a aussi voulu donner, comme je l'ai dit, s'adresser aux citoyens, c'est local, s'adresser au monde, c'est l'international. Tout ça doit marcher ensemble, être cohérent. La culture, c'est le passé, le patrimoine, mais c'est la création. On crée tous les jours. Il faut faciliter et soutenir la création. Ça, c'est un facteur majeur. Et quand je dis soutenir la création, c'est aussi reconnaître la liberté de création. Et ça, on a discuté entre nous, entre élus. Nous affirmons la liberté de création. Ce n'est pas à nous, élus, de choisir. Il faut créer cette capacité à ce que des acteurs culturels dans tous les domaines créent.
Et se sentent complètement libres de créer, voilà, quel que soit leur domaine. Est-ce qu'il n'a pas fallu faire aussi, au préalable, un premier travail qui a consisté à définir ce qu'est l'identité culturelle de la métropole toulousaine?
Oui, alors, c'est pour ça qu'on a, vous l'avez évoqué tout à l'heure, cinq grands domaines. Ça a été un très gros débat entre nous et qui est un débat permanent. Est-ce qu'il y a une identité unique à Toulouse? Quand vous parlez d'Avignon, c'est le théâtre, Cannes, c'est le cinéma. Et Toulouse, c'est quoi? Toulouse, si on a retenu cinq domaines, c'est que nous considérons que nous avons un niveau d'excellence dans ces cinq domaines et qu'il ne s'agit pas d'en privilégier un par rapport à un autre, parce que Toulouse, justement, c'est ça. Vous vous souvenez peut-être du spot qui est sorti en début d'année sur Toulouse, avec un volet industriel, on dit que Toulouse a tout, et un volet culturel, Toulouse a tout. Et c'est ça la vérité de Toulouse. On a une diversité culturelle formidable et c'est ça que nous voulons soutenir. Mais dans cette diversité, on a quand même identifié ces cinq domaines.
Vous pouvez les rappeler, donc les cinq
domaines d'impression. Il y a le domaine des musiques, au pluriel. Il y a différents types de musique.
C'est important de préciser que c'est au pluriel.
C'est au pluriel.
Parce que beaucoup de gens ont tendance à penser évidemment à la musique classique, l'orchestre du Capitole. Non.
Non, il y a d'autres types de musique. On pourra y revenir si vous voulez. Il y a les savoirs. Là aussi, c'est au pluriel. C'est la culture scientifique et la diffusion des savoirs, la lecture publique, etc. J'y reviendrai. Les cultures, ce qu'on appelle les cultures émergentes. Alors là, il y a beaucoup de choses. C'est un mot peut-être très compacté, mais dedans, vous avez bien sûr le théâtre, extrêmement vivant à Toulouse. C'est le cirque qui se développe et qui se renouvelle. C'est les arts plastiques, bien sûr. Donc là, vous voyez, je n'en cite que quelques-uns. C'est dans les arts plastiques, vous avez le grave, vous avez la création contemporaine, bien sûr. C'est les images. Là aussi au pluriel, parce que c'est à la fois le cinéma et dans le cinéma, il y a plein de formes de cinéma. Et c'est la photo. À Toulouse, on a eu la première galerie photo, le Château d'Eau. C'était une première en France, en 1974.
Et vous parlez du cinéma, il y a un des secteurs du cinéma auquel on pense peu, c'est le cinéma d'animation.
Oui.
Il marche très bien à Toulouse.
Il marche très bien à Toulouse, à la fois parce qu'il y a des spectateurs pour le cinéma d'animation, mais c'est qu'on crée du cinéma d'animation et on démontre qu'il n'y a pas que aux États-Unis, parce qu'évidemment, vous avez des poids lourds aux États-Unis, Disney, Pixar et quelques autres, mais aussi aujourd'hui, le savoir-faire technologique à Toulouse, allié à la formation artistique, ça fait un mix qui nous permet de produire à Toulouse des films qui ont du succès, récemment Les As de la Jungle. Voilà, c'est pas le seul. Il y a plusieurs créateurs, plusieurs entreprises de création de cinéma d'animation à Toulouse et nous les soutenons.
Et puis le cinquième axe.
Et le cinquième, c'est le patrimoine.
C'est le patrimoine.
Bien sûr, on en a parlé au travers de l'UNESCO. Le patrimoine, c'est à la fois le patrimoine qu'il faut conserver, bien sûr, et ça, c'est des charges très importantes de réinvestissement. On va intervenir prochainement sur Saint-Cernin, sur la Dorade en ce moment. Donc, c'est des charges lourdes de conservation de bâtiments historiques. C'est aussi l'animation de ces lieux. On a l'exemple aux Jacobins où il s'agit de faire venir les gens. C'est pas tout d'avoir un bel édifice, il faut les faire venir. Les Jacobins sont exemplaires dans ce domaine. Et puis, troisièmement, on crée du patrimoine aussi. Il faut pas l'oublier. C'est l'architecture et on a des sujets. Je peux prendre un exemple sur un bâtiment historique, les Augustins, le musée des Augustins. Nous avons un projet, nous allons repenser l'entrée des Augustins et nous avons fait appel à des architectes. C'est en cours de choix, de renom pour avoir une solution à la fois intelligente et qui s'intègre avec du patrimoine historique.
Alors, je reviens à quelque chose dont nous avons parlé tout à l'heure. Positionner Toulouse au niveau international dans le domaine culturel, est-ce que ça veut dire qu'il faut créer un ou des événements culturels de retentissement international? Vous avez parlé du Festival d'Avignon, les Francofolies à La Rochelle. Est-ce qu'il faut créer un événement comme ça qu'on n'aurait pas aujourd'hui? Ou est-ce qu'il faut s'appuyer sur l'existant et mieux communiquer pour mieux faire connaître la qualité de ce qui se fait déjà à Toulouse?
Nous avons un travail à faire, compte tenu de cette diversité culturelle à Toulouse, un travail pour mieux rendre lisibles les choses. La diversité nuit, bien sûr, à l'identité, l'identification en tout cas, des choses. Il ne faut pas oublier que des événements type Avignon, ça fait 40 ou 50 ans. Enfin, ça ne se crée pas comme ça du jour au lendemain.
C'est
un lent travail, patient. Bon, aujourd'hui, nous avons des événements de rayonnement internationaux, rayonnement international, pardon. Je pense à Piano Jacobin, qui est un festival de piano classique très reconnu. Je pense, alors là aussi, dans un domaine qui est beaucoup plus précis, qui s'appelle Toulouse les Orques, c'est un festival de rayonnement mondial, reconnu dans le monde entier.
Oui, quasi unique au monde.
Et unique au monde, et qui s'appuie sur un patrimoine exceptionnel en matière d'orgue, et qui mérite d'être démocratisé et beaucoup mieux connu. Et c'est ce qui est en cours, avec un directeur artistique très inventif. Je peux citer des festivals de cinéma. Nous avons Ciné Latino, qui est un festival autour du cinéma d'Amérique latine qui est très très important, qui mérite d'être peut-être mieux connu. Bon, voilà, je pourrais citer beaucoup d'exemples. On a un festival sur les cultures urbaines, Rose Béton, qui a eu un très bon impact, mais qui peut encore se développer. On a le printemps de septembre, là aussi, festival d'art contemporain qui est en biennale, qui a un très bon rayonnement. Le marathon des mots. Qui a été une première en France aussi. Voilà, on a, vous voyez, des événements nombreux et il faut mieux les faire connaître à la fois au plan international et les faire reconnaître, y compris par les Toulousains.
Par les Toulousains, bien sûr.
Voilà.
Alors, derrière cette ambition, il y a aussi des enjeux économiques. Il y a des filières de création, de production, vous en avez parlé. Il y a des emplois et il y a des retombées, notamment pour le tourisme, parce que vous souhaitez aussi, à travers cette offre culturelle, développer le tourisme à Toulouse. Donc il faut aussi réunir les acteurs du secteur, je pense aux restaurateurs, aux hôtels, les fédérer autour de cette ambition. Et là, sans doute que l'Office de tourisme a son rôle
à jouer. Oui. Alors bien sûr, il y a un lien fort entre culture et tourisme. Et d'ailleurs, nous travaillons, avec ma collègue Sylvie Rouillon, nous travaillons ensemble pour améliorer à la fois la communication, l'accueil, avec des partenaires que sont les hôteliers, les restaurateurs. On travaille ensemble et on peut faire beaucoup mieux. Ça veut dire aussi qu'on choisit ça comme axe de développement. C'est-à-dire que développer le tourisme culturel, c'est pour nous un objectif. Parce que d'abord, ça sera mieux faire connaître notre ville, mais c'est aussi un axe de développement économique. Vous savez que l'économie toulousaine ne peut pas être uniquement basée sur un secteur souvent cité, l'aéronautique et l'espace. Ce n'est pas le seul. Il y a d'autres filières économiques. Et le tourisme a une dimension économique. Mais j'ajouterais, puisque vous l'avez dit aussi, la création culturelle est aussi un secteur économique. Nous l'avons à Toulouse dans le cinéma d'animation déjà cité. Dans le domaine du cirque, nous avons le nombre le plus important de compagnies de cirque par rapport à la France entière. En région Occitanie et en métropole en particulier. Nous avons beaucoup de créations dans les musiques. Nous avons des compagnies théâtrales, je peux citer la compagnie 111 ou Dernière Minute en danse, Aurélien Maury d'un côté, Pierre Régal de l'autre, qui exportent dans le monde entier. Nous n'exportons pas que des avions, nous exportons aussi des spectacles de théâtre ou de danse.
Alors pour développer le tourisme c'est souvent l'été tout de même que ça se passe, juillet-août. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un manque, une carence en tout cas en termes de propositions culturelles à cette période de l'année?
Alors, c'est un constat que nous avons fait, que moi j'avais fait au début du mandat, en disant, mais c'est bizarre, l'action culturelle, elle est très concentrée sur le printemps et sur l'automne. Qu'est-ce qui se passe l'hiver? Alors l'hiver, il fait froid, il y a les fêtes de Noël, on est un peu plus en famille, mais l'été. Alors, ce qui se disait, c'est l'été, il n'y a personne. Ce n'est pas vrai, parce que la moyenne des Français et des Toulousains, c'est 15 jours de vacances. Bon, donc, les gens sont là, mais s'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande non plus. Donc, c'est aussi par l'offre. Et donc, nous avons décidé d'améliorer le calendrier culturel. Et certaines expositions, par exemple, se terminent en juillet. Pourquoi 14 juillet ? On disait après le 14 juillet, il n'y a plus personne. Nous avons prolongé les expos à la fois photo, Augustin, Quai des Savoirs. Eh bien, il y a eu du monde tout le temps. Donc, l'offre crée la demande. Et donc, évidemment, c'est des changements d'habitude. C'est des questions d'organisation, si pour nos établissements, ce n'est pas neutre.
Oui.
Mais ça veut dire avoir le réflexe de réfléchir mieux à l'étalement de l'offre culturelle sur toute l'année. Voilà. Et ça, ça contribuera aussi à la visibilité. Parce que si tout est en même temps, ben, on ne voit plus rien. Et y compris l'hiver, on peut imaginer des choses qu'on ferait l'hiver.
Donc mieux répartir l'offre
Évidemment, moins en plein air. L'été, on peut être plus en plein air. L'hiver, on est un peu plus au chaud, mais on peut faire de la culture.
Je voulais revenir à un autre aspect. On a parlé de positionnement international, peut-être même de vitrine internationale à travers l'offre culturelle. Mais l'offre culturelle, ça s'adresse d'abord aux citoyens métropolitains. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que la plupart des hauts lieux de culture dans la métropole sont à Toulouse. Il y en a quelques-uns qui sont en périphérie, hein, je pense à Audi-Sud, à Blagnac, à Aéroscopie à Blagnac, Altigone à Saint-Aurens, l'Aria maintenant à Cornebarieux. Comment on fait pour fédérer tous ces lieux, pour faire rayonner la culture sur l'ensemble du territoire métropolitain ?
Alors, je pense que déjà, plusieurs établissements rayonnent bien sur la métropole. Je peux donner un exemple, la Cité de l'Espace, qui va probablement battre son record de fréquentation cette année. La cité a un public à la fois métropolitain et même régional, national et un peu international. Voilà un exemple d'établissement qui a bien réussi. Nous devons travailler sur deux axes. Le premier, c'est mieux communiquer sur le territoire métropolitain pour mieux faire connaître l'offre, pour montrer qu'elle ne s'adresse pas qu'à des Toulousains. La deuxième action, c'est travailler sur le territoire. Alors pour travailler sur le territoire, il y a d'abord le fait d'avoir des actions qui vont vers les habitants et vers les publics. Exemple Quai des Savoirs, nous l'avons conçu d'entrée comme un lieu métropolitain, c'est-à-dire qu'il y a des expositions qui vont se déplacer dans des lieux des communes, dans des écoles, dans différents lieux. Et on a des expos itinérantes, donc le Quai des Savoirs est présent sur le territoire. Et puis on a aussi une action à avoir pour créer des lieux culturels dans des secteurs où il n'y en avait pas. C'est le cas des quartiers de Toulouse, exemple la Piste des Géants. C'est un nouveau quartier qui va naître. C'est le cas de la Cartoucherie où on a une réflexion culturelle. Il faut que l'urbanisme intègre la dimension culturelle. C'est vrai pour les créations de cinéma. On crée un cinéma d'art et d'essai à Bordeaux-Rouge. Vous voyez, on s'écarte du centre de Toulouse petit à petit. On a des réflexions avec des lieux comme le château de Launaguet, faire un lien entre la maison Giscard et le château de Launaguet, qui est un lieu historique de la dynastie Virbin. Voilà, donc vous voyez, petit à petit, il faut intégrer cette dimension territoriale, aller vers les habitants.
Et dernière question, il y a un grand projet culturel métropolitain dont on parle souvent, qui revient dans les conversations, c'est la construction d'un auditorium pour l'Orchestre du Capitole dans l'ancienne prison Saint-Michel. Compte tenu des contraintes financières liées à la baisse des dotations de l'État, a fortiori pour une métropole comme Toulouse, où en est ce dossier ? Est-ce qu'il est toujours en cours ? Est-ce qu'il est toujours d'actualité ?
Alors il avance, parce que même s'il y a des contraintes financières, ça ne nous interdit pas d'avoir des ambitions. Il faut l'intégrer, la contrainte financière. Alors où on en est sur l'auditorium ? Premièrement, on a fait, en commun avec l'État, qui est propriétaire de la prison, une étude de faisabilité. Alors c'est très technique, mais ça avait pour but de vérifier que techniquement on pouvait faire un auditorium avec un cahier des charges pour l'auditorium, mais aussi respecter les contraintes architecturales qui nous sont données par l'architecte des bâtiments de France. Bon, ça, c'est fait, c'est faisable. À partir de ce moment-là, nous avons entamé une deuxième phase avec les habitants du quartier, notamment les associations de quartier, et prochainement on fera une concertation avec tout le quartier, pour vérifier que ça s'intègre bien dans un projet de quartier, parce que nous avons aussi la volonté de requalifier ce quartier, qui en a besoin, le quartier Saint-Michel. Et donc, j'ai mené plusieurs réunions, j'en ai encore bientôt, des réunions de travail, où on est à livre ouvert, avec nos bureaux d'études, on met les données sur la table, et on a un échange, à mon avis, très riche, très complet. Et la phase d'après, ça sera bien sûr à ce moment-là, lorsque ça sera clair avec l'environnement quartier, discuter avec l'État sur la cession, parce que pour l'instant ça appartient à l'État, il faut que ça puisse être fait dans de bonnes conditions. Et ensuite nous rentrerons dans la phase financement, bien sûr nous ne pourrons pas le faire seuls, comment on fait un tour de table de financement, et ensuite lancer le processus, architecture, travaux. Donc voilà, c'est des projets de longue haleine, mais des grands projets urbains, culturels et urbains, hein, c'est pas que culturel. Eh bien, ce sont des projets de longue haleine, mais ça avance normalement.
Donc ça veut dire que si ce projet aboutissait, les travaux seraient lancés après 2020, sans doute, pour une livraison d'un bâtiment 2025,
oui,
quelque chose comme
ça. Je ne sais pas encore donner de date, parce qu'après, il y a des plannings techniques qu'il faut regarder. On n'est pas encore à cette phase-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a au moins un point qu'on va traiter avant 2020, c'est le Castelet. Parce que le Castelet, qui lui est classé monument historique, comme vous savez, représente une attente aussi à la fois pour les habitants, mais pour les associations d'anciens combattants. Le projet du Castelet est prêt, nous allons le lancer, il est financé, et avec un projet de lieu muséal, si vous voulez, qui valorisera à la fois l'histoire de la résistance de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi l'histoire du milieu carcéral et de cette prison très originale d'Esquier, créée au XIXe siècle.
Eh bien, nous terminerons là-dessus. Merci beaucoup pour cet échange et toutes ces explications, Francis Grasse. Et merci d'avoir bien voulu participer à ce numéro de Métropole et vous. Il y a donc désormais un projet culturel très détaillé et structuré pour Toulouse et sa métropole. J'espère que nous aurons réussi à vous en dessiner les contours, les grandes lignes et les axes forts. En tout cas, c'est la feuille de route proposée aux acteurs culturels locaux pour les 3 prochaines années. Et je vous invite à la consulter sur le site de Toulouse Métropole, où ce projet culturel peut être téléchargé. Il vous suffit pour ça de taper l'adresse www.toulouse-métropole.fr et d'aller à la catégorie mission, rubrique, culture, projet culturel. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupré, à la technique Johan Maté. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.